France, Algérie, anatomie d'une déchirure.
Près de deux siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser?
Thomas Negaroff.
Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
Épisode 6, 2025, les mémoires entravées.
L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Emmanuel Macron, discours aux ambassadeurs, le 6 janvier 2025. Benjamin Stora, pour ce dernier épisode, on est dans le moment le plus présent, même si on va raconter ce qui s'est passé, pour qu'on en arrive à ça. Pour qu'on en arrive non pas seulement à l'emprisonnement terrible de Boualem Sansal, mais aux mots employés par Emmanuel Macron. L'Algérie avec laquelle nous partageons tant d'enfants, tant d'histoires, qui se déshonore. On revient, avant d'arriver à la période d'aujourd'hui, au lendemain de la guerre d'Algérie, parce que c'est là que tout va se structurer. Tu avais dit à la fin de l'épisode précédent que du côté français, il y avait une amnésie, on voulait oublier cette guerre qui déshonorait aussi notre histoire, et du côté algérien, une espèce d'hypertrophie de la mémoire. Comment, dans le temps, cela s'est inscrit concrètement? Je pense notamment, par exemple, à la loi d'amnistie en France. Est-ce qu'il y a des jalons comme ça qu'on doit avoir en tête pour comprendre cette amnésie décidée par la France?
Il y a effectivement une amnésie décidée par l'État, avec toute une série de lois d'amnistie. D'abord, les accords d'Évian, c'est une loi d'amnistie. On ne juge pas sur les exactions, c'est contenu dans les accords d'Évian.
Ah oui.
Il y a la loi de 1964, la loi de 1968. Vous savez, lorsque le général de Gaulle, en 1968, a vu son pouvoir vaciller, il a amnistié un certain nombre de responsables de l'OAS. Et Jacques Soustelle, par exemple, est rentré en France en octobre 1968.
Tu penses que ça fait partie des discussions avec Massu?
Ah, peut-être.
À Baden-Baden, c'est une hypothèse que je...
C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Il y a l'amnistie de 1974 sous Giscard, bien sûr, et puis la grande amnistie de 1982 de François Mitterrand, qui a réintégré dans leurs grades, pensions et décorations les généraux putschistes d'avril 61, qui ont été entièrement réintégrés dans l'armée française, avec toutes leurs grades et décorations, ce qui a provoqué une très grave crise à l'intérieur du Parti Socialiste, parce que là, on voit la fracture avec ceux qui étaient opposés à la guerre d'Algérie. Je pense en particulier, bien sûr, à Lionel Jospin ou Michel Rocard, qui étaient naturellement des opposants à la guerre d'Algérie des années 50, 60. Et là, ils se sont opposés à ce principe d'amnistie, mais Mitterrand a imposé cette amnistie.
On ira du côté algérien dans un instant, mais restons du côté français. D'un point de vue culturel, les films sont interdits. Comment ça se passe? Comment concrètement est-ce qu'on met un boisseau sur cette histoire?
Alors, il y a eu beaucoup de films interdits pendant la guerre d'Algérie qui sont sortis après la guerre d'Algérie. Adieu Philippines, Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, sont des films qui sont sortis après, mais la société française n'avait pas envie de voir des films sur la guerre d'Algérie. Ouais. La Soumise d'Alain Cavalier avec Alain Delon. Les premiers films où on commence à s'intéresser à la guerre d'Algérie, Savoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, R.A.S. d'Yves Boisset, mais ce ne sont pas des grands succès. C'est-à-dire qu'en fait, les Français ne regardent pas sur les écrans ce qu'a été cette histoire. Bon, alors, il y a des interdictions, entre guillemets, de fait, comme par exemple le film de Giulio Pontecorvo, La bataille d'Alger, qui ne trouve pas de distributeur en salle. Mais il n'est pas interdit, mais s'il n'y a pas de distributeur. Donc, le cinéma n'arrive pas véritablement à fabriquer un imaginaire autour de la guerre d'Algérie.
Et toi, quand tu commences à travailler sur la guerre d'Algérie, c'est en quelle année d'ailleurs?
1974.
Comment c'est reçu dans l'académie, à l'université? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Stora, il est fou?
Non, au contraire, parce que c'était René Raymond et Charles-Robert Ageron qui m'avaient conseillé de travailler là-dessus, parce qu'ils me disaient, toi Stora, qui vous intéressait, à l'époque j'étais très engagé, très militant, qui vous intéressait aux révolutions au Vietnam, en Amérique latine, etc. Il y en a une de révolution qui vous échappe. Pourquoi? Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi? C'est vrai, quelle révolution? Mais la révolution algérienne. « Ah ben, c'est vrai ça !» Et Ageron, c'est lui qui m'a dit « Il faut, Stora, travailler sur cette histoire, il n'y a pas de chercheurs !» Tous les gens qui s'étaient intéressés à l'Algérie pendant la guerre d'Algérie ont disparu. Enfin, je veux dire, on ne s'y intéresse plus, ne publie plus là-dessus. Donc, pour moi, ça a été extraordinairement excitant, avoir 23, 24 ans et de travailler seul sur un territoire inexploré.
Extraordinaire.
Donc, c'était extraordinaire d'aller aux archives à Aix-en-Provence et puis de rencontrer un certain nombre de militants algériens très célèbres que moi j'ai rencontrés, avec qui j'ai la fille de Messali Hadj, qui restait une amie à moi, aussi Naït Ahmed, qui était un grand dirigeant kabyle du FFS, qui était devenu un ami personnel, Boudiaf, etc., etc.
Mais ça, c'est une mémoire entravée, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une autre mémoire en métropole qui reste vivante, très politique, c'est la mémoire de l'Algérie française.
Bien sûr.
Et puis aussi, c'est la mémoire des harkis.
Bien sûr, il y a une autre mémoire qui chemine de manière souterraine et de manière forte, c'est effectivement une mémoire qui n'accepte pas l'histoire accomplie quelque part et qui s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'antigaullisme. Il faut pas oublier
qu'on tentait d'assassiner le général de Gaulle aussi.
Absolument, mais il faut pas oublier qu'en 1965, donc c'est 3 ans après l'indépendance de l'Algérie, il y a un candidat qui s'appelle Jean-Louis Tixier-Vignancourt, il fait 1 million de voix.
D'extrême droite.
Donc c'est colossal, on l'a oublié ça.
Ouais.
Bon, il a appelé à voter d'ailleurs pour François Mitterrand au deuxième tour contre le général de Gaulle.
Tellement il détestait le général de Gaulle.
Voilà, et puis que François Mitterrand était un petit peu aussi pour l'Algérie française. Tout ça est compliqué.
Oui, hein, oui, bon. Oui, oui.
Donc on a par conséquent effectivement cette mémoire qui est là. Par exemple, le succès phénoménal des livres d'Yves Courrière. La guerre d'Algérie sort en 68, 69, 70, et les 4 volumes. Il en vend 1 million d'exemplaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt, mais il n'est pas assumé. C'est pas un intérêt, disons, qui se concrétise sur le plan d'actes de reconnaissance politique.
En revanche, en acte de militance politique, est-ce qu'on peut dire que le Front National, avec un Jean-Marie Le Pen, qui a fait partie de bataillons qui ont torturé pendant la bataille d'Alger, est-ce qu'il y a un lien consubstantiel entre l'Algérie française et le Front National?
Moi, je pense qu'il y a un lien qui est le fait, disons, de... On l'a vu dans une ville comme Marseille, par exemple, en 1973, où il y a eu des Algériens qui ont été assassinés. C'est-à-dire, le lien, c'est le fait qu'on reproche aux Algériens d'être venus en France alors qu'ils réclamaient la séparation avec la France par le biais de l'indépendance. Chose qu'on ne disait pas à propos des Marocains ou des Tunisiens ou des Indochinois ou je ne sais quoi. Mais par contre, les Algériens, la figure même de l'Algérien est devenue emblématique de ce qu'on pourrait appeler l'immigré, en fait.
Oui.
Et c'était plus tellement les Espagnols ou les Portugais, ça devenait l'Algérien. Et on le voit, par exemple, dans un film, hein, le film d'Yves Boisset, Dupont-Lajoie, qui a remporté un certain succès. Et dans ce film, on voit effectivement un Victor Lanoux qui veut faire une ratonnade. Je veux dire, dans le foyer de travailleurs immigrés qui se trouve juste à côté de l'endroit où une jeune fille a été violée.
Il y a beaucoup l'idée aussi, dans cette mouvance politique, que les Algériens viennent conquérir la France.
C'est ça.
Une sorte de retour de l'histoire, d'inversion de l'histoire.
Oui, il y a ce sentiment d'une espèce, entre guillemets, de colonisation à rebours qui crée du ressentiment, en fait. Qui n'est pas fondé dans le sens où les chiffres, par exemple, ne sont pas des chiffres extraordinaires, je veux dire, d'arrivée. Mais c'est un sentiment diffus.
Oui.
C'est un sentiment qui progresse dans la société française.
Un candidat à la présidentielle comme Éric Zemmour, lors de la dernière présidentielle, a réussi à capter cet esprit-là, ce moment-là?
Il a capté quelque chose de très important, c'est la perte, quelque part, de la grandeur par l'empire colonial. C'est-à-dire que la France était plus grande avant. C'était la Grande France. Il a repris, disons, cette thématique de la Grande France.
Oui, la plus grande France, ouais.
Et la plus grande France, c'est le mot d'ordre de l'exposition coloniale de 1931.
Absolument. Absolument.
Donc, il a repris cette dimension-là.
Alors là, on était chez des militants clairement Algérie française. Cette masse de pieds noirs qui arrive en France en 62, en métropole, qui d'ailleurs parfois n'a pas de lien réel, direct, avec la métropole. Certains si, du coup, ils s'installent dans certaines régions plutôt que d'autres. Quel est leur sentiment dans ces années 70, 80, 90? Ils sont combien d'ailleurs? 1 million?
Un peu moins, à partir 600 000. Ils partiront ensuite progressivement en 64, 66, 70, etc. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ils sont pas partis d'un coup, 1 million.
Ouais, ouais.
Hein, il y a eu 600 000.
C'est quand même, beaucoup, c'est
quand même colossal. Hein,
un exode énorme pour des gens qui parfois étaient là depuis des générations, des générations.
Oui, c'est le cas de mes parents, hein, qui étaient là, les Juifs d'Algérie étaient là depuis 2000 ans.
Ouais, ça, bien
donc
avant
c'était
même.
C'était bien avant,
bien avant la conquête, ouais.
Et ben, on s'est retrouvés, effectivement, projetés dans un univers absolument incroyable, qui était, Sartrouville, bon. Et que j'ai raconté dans un livre qui s'appelle L'Arrivée. Et en fait, c'était la solitude, la froideur, de la société française, l'individualisme, alors qu'on vivait dans une société extraordinairement communautarisée, solidaire, fraternelle.
Le racisme aussi ?
Le racisme aussi.
Envers l'accent. Sûr.
L'accent. Il faut gommer l'accent, il faut s'assimiler. Mmh. On découvre les codes de l'assimilation par l'intermédiaire du langage, bien sûr. Mmh. Ça, c'est très important. Et puis surtout, surtout, ce qui est très important, c'est l'éclatement des familles. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes familles. Par exemple, si je prends l'exemple de ma famille, j'ai de la famille à Nice, à Montpellier, à Toulouse, à Strasbourg,
oui.
à Paris, en région parisienne. C'est incroyable, alors qu'on vivait tous ensemble. Mmh. Mes cousins, on jouait tous ensemble.
Dans trois rues. Ouais.
Et c'était fini.
Ouais.
D'un coup, c'était fini. On avait perdu un pays, bien sûr, comme disait Enrico Macias, mais surtout une famille.
J'ai perdu
un pays. Ben oui, mais surtout une famille.
Et j'ai pas évoqué les harkis, j'aimerais qu'on en parle maintenant.
Bien sûr.
Avant d'aller du côté de la mémoire, du côté des Algériens. Les harkis, cette mémoire harkis, comment elle se fédère? Est-ce que c'est une mauvaise conscience nationale, les harkis? Comment ça fonctionne?
Ah, c'était le réveil par les enfants de harkis qui se sont révoltés dans les camps à la fin des années 70. Parce qu'ils ont été parqués, pour certains d'entre eux.
Souvent en Provence, dans l'arrière-pays.
Oui, des trucs forestiers, etc. Ouais. Et donc, il y a eu cette révolte citoyenne. C'est-à-dire qu'on veut être égaux, comme des citoyens à part entière. Ils ne voulaient plus être, entre guillemets, militarisés. C'est-à-dire dirigés par des gens appartenant à l'armée, qui leur faisaient cours, etc. C'est une situation d'enfermement et de ghettoisation spatiale qui a été très, très dure, qui a été très bien racontée par un certain nombre de chercheurs, notamment par Mohanda Moumou, par exemple, qui a écrit des choses très importantes sur ces questions-là. Et la révolte, ensuite, s'est étendue et a gagné la société française. Dans les années 90, la classe politique française a commencé à réfléchir sur le sort des harkis et donc la mauvaise conscience d'abandon qui a existé au moment de la fin de la guerre d'Algérie.
Ça s'est traduit par des faits concrets ?
Des indemnisations.
Oui.
Qui ont été apportés sans arrêt.
En tant qu'ancien soldat.
En tant qu'ancien, bien sûr, supplétif, soldat. Bon, il y a des avantages, etc. Enfin, il y a toute une série de lois qui ont été décidées. Mais rien ne remplace la question fondamentale de la reconnaissance, en fait. C'est-à-dire de la dignité et de l'abandon.
Du côté algérien, cette hypertrophie mémorielle, on dit toujours que dès que ça va pas en Algérie, on remobilise la colonisation et la guerre d'Algérie pour souder la population contre un ennemi commun. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité ?
Non, je pense que c'est quelque chose de réel. Le nationalisme est réel. Je ne vois pas pourquoi le nationalisme algérien n'existerait pas. Le nationalisme français existe. Ben, le nationalisme algérien, il existe. Et avec ses dates, avec ses héros, avec ses douleurs, avec ses oublis, avec ses relégations, avec ses secrets de famille. Donc tout ça existe en Algérie, bien sûr. C'est une société à part entière, 43 millions d'habitants, grande puissance africaine. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. Mais il y a effectivement en Algérie, selon moi, un problème qui tient plus dans l'ordre de la reconstruction fantasmée, disons, de l'histoire nationale, que de l'occultation. En France, on a été longtemps dans l'occultation, mais pas en Algérie. Parce que il y a eu le traumatisme de ce qu'a été, de ce qu'on a appelé la nuit coloniale, hein, c'est-à-dire bon, bah la relégation dans la sous-humanité, la sous-citoyenneté, qui était transmise. Disons, ce traumatisme-là a été transmis quand même. Hein, on le voit dans les films de Lakhdar Hamina, par exemple, hein, Chronique des années de braise, etc. Ce sont des films très importants qui ont eu la Palme d'Or d'ailleurs à Cannes. Et on a par conséquent une transmission du traumatisme de ce qu'a été l'histoire coloniale, mais en même temps. Dans une partie importante de la société, il y a bien conscience que ce récit national héroïsé est instrumentalisé par le pouvoir politique. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un vrai sentiment national qui est fort, qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est une nation jeune, et en même temps, il y a effectivement le sentiment que c'est instrumentalisé. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie de rentrer dans une histoire réelle, c'est-à-dire avec de vrais personnages qui ont été évincés de l'histoire réelle. Ça va de Messali à Boudiaf pour aller vite. Ça va de Krim Belkacem qui a été assassiné en 70 jusqu'à Abd Ramdan. Donc il faut rentrer dans l'histoire réelle, mais il faut en même temps essayer d'en sortir pour construire l'avenir et pour se projeter dans le monde méditerranéen, dans le monde moderne.
Pas rester accroché au passé.
Voilà, il y a les deux aspects qui cohabitent.
Est-ce que dans cette mémoire algérienne, il n'y a pas aussi des formes d'occultation de ce qu'a pu être la présence française ?
La principale occultation, à mon avis, c'est la question de la pluralité. la pluralité ethnique, la pluralité linguistique. C'est ça, la, à mon avis, c'est la principale occultation. L'Algérie plurielle...
Tu parles de l'arabisation à marche forcée ?
Il y a eu effectivement... L'Algérie plurielle, c'est une Algérie, bien sûr, musulmane et arabisée au fur des siècles, mais c'est aussi une Algérie berbère, mais c'est aussi une Algérie juive, mais c'est aussi une Algérie qui était en proximité avec le monde méditerranéen, c'est-à-dire espagnol et italien. Ce sont pas des vues de l'esprit, c'est des réalités. Si vous allez dans des villes comme Oran, ou à l'inverse, dans d'autres villes, disons, plus proches de la frontière tunisienne, c'est une véritable réalité. Il y a un monde méditerranéen qui existe. Il y a un monde africain. L'Algérie, c'est aussi une terre africaine qui va jusque, évidemment, aux confins du Mali, de la Mauritanie, de la Libye, etc. Donc, cet aspect de la pluralité d'appartenance d'origine a été longtemps nié au profit d'une exclusivité arabo-musulmane.
Que reste-t-il de la présence juive en Algérie ?
Il n'y a plus de juifs en Algérie.
C'est-à-dire que je pensais plutôt présence patrimoniale.
Ah, il y a les cimetières. Alors là, il y a la bataille. Quand j'ai fait mon rapport au président de la République, qui a fait couler beaucoup d'encre, en 2021, en janvier 21, ça faisait partie de mes préconisations. C'est-à-dire la restauration par l'État français de la plupart des cimetières qui sont encore là. Bon, il y a des grands cimetières appartenant aux Européens ou aux Juifs d'Algérie et qui, parce que le temps passe, eh bien, tombent en déshérence. Et c'est dramatique parce que c'est des parts de mémoire qui disparaissent, bien sûr, de toute cette histoire plurielle qui est tout à fait décisive.
Les cimetières chrétiens aussi ?
Les cimetières chrétiens aussi. Alors, vous savez, ça fait, c'est une discussion sans fin sur faut-il regrouper toutes les tombes sur un seul endroit ou au contraire, faut-il laisser les cimetières tels qu'ils étaient au moment de la décolonisation ? C'est un dilemme parce que si je prends une ville comme Khenchla, le berceau de ma famille dans les Aurès, lorsque je suis parti en Algérie, les gens de ma famille m'ont dit « va au cimetière voir les tombes de mes ancêtres ». Et quand j'ai cherché le cimetière, en fait, il était en plein cœur de la ville, alors qu'on m'avait dit qu'il était à l'extérieur. Parce que la ville de Khenchla, aujourd'hui, elle fait 100 000 habitants.
Une toute dernière question pour achever cette série avec toi. Quand vous écouterez cet épisode, peut-être que le sort de Sansal sera, on l'espère, scellé par une libération. Mais ça fait partie, aujourd'hui, des points de crispation majeurs. Quelle est ta lecture à toi de l'arrestation de Boualem Sansal, du refus de l'y libérer et de le condamner à de nombreuses années de prison?
La place d'un écrivain, c'est de ne pas être en prison. Et de cette arrestation, c'est quelque part le symptôme, malheureusement, d'une absence de discussion sur la pluralité des divergences, des origines qui existent de l'Algérie. C'est tout. Il faut s'habituer à la dispute démocratique. Il faut s'habituer à des voix différentes.
Ce cas, pour toi, dit plus de l'Algérie que des relations entre la France et l'Algérie ?
Oui, absolument. Il dit plus de l'Algérie que des relations entre la France et l'Algérie. Tout à fait. Parce que les relations entre la France et l'Algérie, c'est beaucoup plus vaste que ça, malheureusement. Parce que l'Algérie, c'est une puissance méditerranéenne. C'est la plus grande frontière avec l'Europe, 1400 kilomètres de côte. C'est la plus grande frontière européenne. C'est la plus grande frontière saharienne. C'est le plus grand désert du monde qui s'appelle le Sahara. Et aujourd'hui, c'est le plus grand territoire géographiquement de toute l'Afrique, l'Algérie. Ce que les Français n'ont du mal à concevoir, c'est qu'effectivement, c'est un pays très important en termes géopolitiques. Bien sûr, il y a le gaz, le pétrole, on n'en a pas parlé. La découverte du pétrole en 1956.
Ben voilà, t'en as parlé.
Ça, c'est très important. Et donc, pour toutes ces raisons, la France et l'Algérie ont tout intérêt, bien sûr, à essayer de maintenir un fil.
Mais ce fil, il doit se nourrir par l'histoire, l'histoire qu'on a racontée ensemble, d'ailleurs surtout toi. C'était pas facile de raconter pratiquement deux siècles d'histoire en si peu de temps. Merci beaucoup, Benjamin Stora, de nous avoir accompagnés.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure, est un podcast original de France Inter.